tout à fait bien.
Alors, je renouvelle mon bonjour. Et je suis heureux, j'ai l'impression d'être toujours un peu à la maison quand je suis à l'église. Nos églises sont très proches l'une de l'autre. Je commence peut-être par vous donner quelques nouvelles et déjà les salutations très fraternelles de mon église qui m'a chargé de le faire. Salutations fraternelles aussi de mon épouse qui ne s'est pas joint à moi ce matin, ni les enfants, parce que comme vous, on est en pleine préparation des activités de Noël. Et donc il y a les répétitions qui commencent dans notre église et mon épouse est co-responsable de l'école du dimanche, donc ça demande un peu beaucoup même de préparation. À Grenoble, il y a à peu près 200 personnes qui fréquentent régulièrement nos cultes, tout le temps des personnes nouvelles qui arrivent et puis qui mettent les pieds pour la première fois dans une église protestante évangélique, soit qui ont été invités, soit parce qu'on est en centre-ville, dans une rue qui est assez passante, et au final les gens s'arrêtent, ils entendent un peu de bruit, c'est des chants, et puis ils rentrent et ils regardent, et c'est une grâce, on vit grâce sur grâce, on vit le lot aussi bien sûr de difficultés, mais voilà, c'est vraiment une bénédiction. Donc vous avez vraiment les salutations fraternelles de l'église dans laquelle je suis, rue Casimir Perrier, et dans laquelle je suis diacre, donc, et puis on sert avec les anciens dans cette église. Le titre de ce matin, l'Ecclésiaste ou les frustrations d'un insatisfait. Dans la Bible, il y a des livres avec lesquels on accroche bien, et puis il y a des livres avec lesquels on n'est pas à l'aise. Paradoxalement, par rapport à la présentation diatale, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, il y a un livre avec lequel j'ai un mal fou, les psaumes. Ah bon? Eh oui. Eh oui, parce que je regardais tout à l'heure, tu lisais, Colin, le psaume 27, je regardais le 26, le 27 et le 28, juste à côté, et en fait, d'un coup, on a un David qui se morfond, et puis après, on a un David qui est ouh, génial avec Dieu, et puis après, il se remorfond, et puis il oscille comme ça, et où tu vas? Mais tu fais quoi? Tu fais quoi de ta vie? Arrête! Et en fait, peut-être que ce livre me gêne parce que nos vies sont comme ça. Et c'est un miroir que le Seigneur nous présente lorsqu'il nous donne sa parole et qu'on l'ouvre et qu'on la lit et qu'on veut bien se laisser imprégner par la parole. Et que un frère disait, on ne lit pas la Bible, c'est la Bible qui nous lit. Et je trouvais l'expression très belle et très parlante. Et le livre de l'Ecclésiaste, il faut reconnaître que c'est pas parmi le top 5 des lectures qu'on va conseiller à nos amis. C'est pas forcément le top 5 de mes lectures non plus. Mais un jour, avec des amis, on s'est lancé le défi de lire ce livre. Et on a dit, on va le lire deux fois en deux semaines. Ok. Donc je le lis la première fois dans la version seconde. Et puis à la fin, je finis et puis je me dis, il est vraiment pas bien ce gars. Et puis la deuxième semaine, je me dis, on va aller un peu plus loin. Et puis on va prendre une version différente. Donc j'ai lu dans la version Parole de vie. Et puis la deuxième semaine, à la fin de la deuxième semaine, j'ai fermé ma Bible, je me suis dit, il est vraiment, vraiment pas bien. Frustré. Frustration sur frustration, l'Ecclésiaste. Comment faire? Et c'est une question qui est légitime de se poser. Comment faire pour arriver à la fin de nos vies et dire, comme l'apôtre Paul a pu le dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je suis satisfait. Comment dire, bien sûr, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est pas comparable, mais quand même. Comment dire à la fin de notre vie, tout est accompli? Ça y est, on y est. Comment faire en sorte de vivre le quotidien en disant, mais en fait, je suis là où le Seigneur veut que je sois. Je suis pas en train de me dire, lorsque je suis à Lyon, ah, je devrais être à Singapour. Ou lorsque je suis à Singapour, ah, je devrais être en Afrique, il y a des besoins. Ou lorsque je suis en Afrique, ah, je devrais être encore ailleurs, etc., etc. Comment arrêter, et c'est quand même une particularité forte de certains chrétiens dont j'ai pu être pendant un temps, d'être un éternel insatisfait. Jamais content d'être là où je suis. Jamais content d'avoir les choses que j'ai. Jamais content. Jamais satisfait. Parce que vous savez que la deuxième chanson rock la plus connue de tous les temps, c'est une chanson de Rolling Stones qui s'appelle « I can't get no satisfaction ». Jamais possibilité d'être satisfait. Et quand vous lisez les paroles de cette chanson, mais c'est édifiant de voir, et terrifiant de voir combien il enchaîne des choses en disant ben, « j'ai fait ci, j'ai fait ça », et puis des choses terribles parfois, mais en fait, au final, je suis incapable d'être satisfait. Pour cette prédication, je voudrais commencer par vous présenter cet homme et vous raconter une histoire. Une histoire vraie. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Alors non, il n'est pas sorti tout droit d'une série télévisée des années 80, même s'il pourrait, mais il s'appelle Larry Walters. Larry Walters, ça vous dit rien ? Larry Walters, c'est un Américain. Début des années 80, bon, voilà. Et puis, il était chauffeur poids lourd. Et puis, pendant toute la semaine, il roulait. Et puis, arrivé le week-end, en fait, il rentrait chez lui, puis il ne savait pas trop quoi faire, donc il se posait dans sa chaise de jardin, essentiellement. Et puis, après, derrière, recommençait une semaine, et puis, re-chaise de jardin, et puis, voilà. Et puis, en fait, il passait sa vie comme ça. Et puis, un jour, il a pris la décision, il a dit, j'en ai marre, je passe à autre chose, maintenant, je veux faire autre chose de mes week-ends. Autre chose que ma chaise de jardin. Il en parle à ses voisins, etc. Et puis, il a une idée brillante. Il dit, vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire le buzz. Vous savez ce que c'est le buzz ? C'est, on essaye d'être remarqué. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte d'être connu, etc. Et puis, au moins dans mon quartier, donc ce que je vais faire, c'est que, avec ma chaise de jardin, je vais attacher des ballons météo à ma chaise de jardin, et puis comme ça, je vais pouvoir décoller et vous faire un petit coucou de 30 mètres de haut. Histoire vraie, hein, d'accord, hein, vous pourrez vérifier. Hein. Alors, aidé de ses voisins, Larry Walters va dans un magasin, je ne sais pas lequel, hein, mais il va acheter 45 ballons météo. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce milieu-là, un ballon météo, c'est 2 mètres de diamètre à peu près. Hein, d'accord. Donc, il va acheter 45 ballons météo. Et puis, il arrive, et puis, avec l'aide de ses voisins, qui disent, ouais, quand même, c'est un bon coup, ça va bien marcher. Et puis, il lui attache donc les ballons météo à sa chaise, et puis arrive le jour J, en 1982, très précisément, où Larry Walters se dit, c'est quand même un beau pied de nez, je vais me mettre dans ma chaise de jardin, je vais attacher les ballons météo à ma chaise de jardin, et puis il y a tous ses voisins qui sont là, oh, Larry, vas-y. Et puis, hop, 3, 2, 1, on lâche tout, Larry part. Alors, évidemment, il a pris deux éléments indispensables avant de partir. Il a pris un pack de bière, premier élément indispensable. Deuxième élément indispensable, il a pris un fusil. Parce qu'il s'est dit quand même, ce qui monte finit par descendre, mais ça dépend quand. De temps en temps, avec mon fusil, je vais mettre des coups de fusil dans les ballons météo, je vais les crever comme ça, et puis je vais pouvoir me stabiliser. Et puis Larry monte. Oh, ça marche, 3 mètres. 5 mètres, 10 mètres, 12 mètres, 20 mètres, 30 mètres, ça y est, on est arrivé. Larry prend son fusil, ding, il commence à tirer, mais il sent que la chaise, elle bascule un peu quand il lâche une main. Un petit peu inquiet. Et puis, il dégrinche un deuxième ballon, 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres. Et puis, d'un coup, il va pour aller crever un troisième ballon, la carabine tombe. Histoire vraie. 100 mètres. 200 mètres, 300 mètres, sa femme court. Allô, police, oui, effectivement. Alors, comment vous expliquez la situation? Mon mari est sur une chaise de jardin, mais pas là, vous pouvez l'imaginer. 1000 mètres, 2000 mètres, 3500 mètres, un DC-10, part, un avion de l'armée américaine. Et là, le pilote, c'était juste à côté de Los Angeles, il y a un gros aéroport à Los Angeles, et le pilote du DC-10 appelle la tour de contrôle, on a un problème, il y a un homme sur une chaise de jardin. Le Le trafic aérien a été annulé pendant des heures à l'aéroport de Los Angeles parce que Larry Walters était sur une chaise de jardin à 3500 mètres d'altitude. Et puis, ils ont réussi. Alors, je ne sais même pas trop, je n'ai pas réussi à savoir comment ils ont fait, mais avec des hélicoptères et des choses comme ça, ils l'ont ramené sur Terre, c'est le cas de le dire. Arrivé en bas, évidemment, les journalistes ont été mis au courant très vite, et vous imaginez l'afflux, effectivement, ça a bien marché. Hein. Et ça, il y a eu un gros buzz. Lui était un peu tout palo, et bien frigorifié aussi. Arrivé en bas, les journalistes lui ont posé la question, ont dit, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Et Larry Walters leur a dit, parce que je ne me voyais pas passer le reste de ma vie avec mes week-ends assis sur une chaise de jardin. Et cet homme a été embauché évidemment par la télé, journaliste, pour aider, commenter, etc. Parce que quand même, quand on a un filon comme ça, on ne le lâche pas. Hein. C'était quand même un phénomène. Et puis, un beau jour, sa femme le quitte. Parce qu'il avait été licencié et le buzz était retombé. Et puis, il se retrouve seul. Et puis, il avait racheté un fusil. Et puis, il est parti dans un bois à côté de chez lui et il s'est suicidé. Voilà Larry. On ne peut pas passer sa vie assis dans sa chaise de jardin à ne rien faire. C'est vrai. C'est vrai. Mais il a essayé de combler son insatisfaction là où beaucoup de monde essaye de le faire en venant jusqu'ici. J'entendais parler des YouTubers, donc des gens qui vivent grâce à des vidéos qu'ils postent sur YouTube, sur Internet. Et en fait, on voit clairement un degré d'insatisfaction, mais permanent chez les gens, permanent chez nous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de l'Ecclésiaste. Ça sort un peu étrangement, je suis désolé, mais ça sortait bien, mais pas grave. Et on va lire dans le livre de l'Ecclésiaste, du chapitre 1, verset 12, au chapitre 2, verset 11. Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël, à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé et ce qui manque ne peut pas être porté au compte. J'ai dit en mon cœur, ainsi moi j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui étaient avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'ai reconnu que cela aussi est poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Et plus on a de science, plus on a de tourments. J'ai dit en mon cœur, allons! Je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Mais même ça, c'est que vanité. Du rire, j'ai dit, c'est de la démence. Et de la joie, que vient-elle faire? Je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins, des parcs, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes. J'ai eu leurs fils nés à la maison. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétails, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent, de l'or, précieux trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Je suis devenu grand. Et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. Et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Puis, j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les faire. Et voici que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. On ne peut pas dire qu'il avait un ministère d'encouragement, hein. Quand je vous dis qu'à la fin, on ferme le livre et puis qu'on se dit « Waouh, il n'est quand même pas en grande forme, hein. » Directement ou indirectement, l'auteur de ce livre, c'est le roi Salomon. Il y a plusieurs écoles de pensée à ce sujet-là, mais de toute façon, ça nous ramène systématiquement au roi Salomon. Et je voudrais simplement ce matin vous donner quelques clés de décryptage, de manière peut-être à vous donner envie de relire ce livre chez vous, le livre de l'Ecclésiaste, qui nous apprend tellement, moi qui m'a tellement appris et qui... Je me suis vu à travers ce livre. Et le roi Salomon, c'est l'auteur de 3 livres dans la Bible, en partie ou totalement. 3 livres, 3 âges. Le Cantique des Cantiques, l'âge où on voit sa douce comme une biche qui voltige au-dessus des collines, nous dit le Cantique des Cantiques, où tout est beau et tout est waouh et tout est génial et tout est simple et tout est amour et c'est la jeunesse. Et puis arrive le livre des Proverbes, où on commence à voir un roi Salomon qui a de la sagesse, la biche a pris un petit peu de plomb dans les sabots, voltige moins, et puis plein de conseils, de bons conseils. On voit qu'il conseille ses enfants en particulier, et par rapport à manière de gérer leurs propres affaires, de manière à gérer leur vie personnelle. C'est le livre de la maturité, le livre des Proverbes. Il a probablement 40 ans, 50 ans dans ces eaux-là, au moment où il rédige le livre des Proverbes. Et puis arrive le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est le livre de la fin de vie. C'est le livre du bilan. C'est le livre où la personne se livre. Ses enfants sont devenus grands, ils sont partis. Et puis, il livre son constat sur sa propre vie, sur la manière dont il l'a menée. Moi qui ai des enfants en bas âge, encore ça m'intéresse. Et même si on n'a pas des enfants en bas âge, si on n'en a plus, ou si on n'en a jamais eu, ce livre est particulièrement intéressant. De voir ce que peut éprouver un homme qui arrive vers la fin de ses jours, et puis qui se retourne sur sa vie. Souvent avec mon épouse, on réfléchit à notre vie, et on essaye de s'investir beaucoup dans des projets, des choses comme ça, et on se pose systématiquement la question de savoir si on est en train d'investir notre temps dans la bonne chose. Est-ce qu'on est en train d'investir notre argent au bon endroit? Est-ce qu'on est en train de s'investir et d'amener nos enfants avec nous aussi? Parce que le temps que je passe, par exemple, je vous parlais d'une dizaine d'heures par semaine pour Yatal, c'est du temps que je passe pas avec mes enfants. Est-ce que ça vaut le coup? Il faut qu'on soit convaincu de ça. Il faut que mon épouse soit partenaire de ça. Parce que, mine de rien, il faut que ça continue à tourner, entre guillemets, à la maison. Et puis, est-ce que mon église est partenaire de ça? Est-ce qu'elle est d'accord pour que je puisse entamer ce projet? Est-ce que j'ai une validation qui dit « Vas-y, fonce !» Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine de l'incertitude? Et avec mon épouse, on se pose énormément de questions par rapport à ça. Juste de manière à... sans être tout le temps à s'interroger, parce que ça peut être une maladie aussi, hein. Mais remettre les choses dans les mains de notre Dieu. Dire « Seigneur, ce projet, tu l'arrêtes quand tu veux. Quand tu veux, Seigneur, je suis prêt à arrêter. Seigneur, montre-moi clairement. » Et si dans un projet comme par exemple le projet Yatal, il n'y avait pas du fruit, si on ne voyait pas des personnes qui revenaient après des concerts et qui nous disent « Vous savez quoi, après être venu à votre concert, eh bien je me suis joint à cette église. » Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Une anecdote, dans l'un des concerts qu'on a donné assez récemment, il y avait une jeune fille qui était juste devant moi, et il y avait un monsieur à côté, plus âgé, Et la jeune fille était super bien habillée, et puis le monsieur à côté est habillé en baba cool. Et puis un peu négligé sur lui, on le voyait. Et puis pendant le concert, on voyait, elle connaissait toutes les paroles des chansons, manifestement elle devait bien connaître. Et puis à la fin du concert, elle vient nous voir, et puis elle nous dit « Je m'appelle Mia ». Et quand vous êtes venu en concert à Valence, à la suite de ça, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai voulu me joindre à une église locale, l'église de Valence l'a accueillie, bien sûr. Et puis, elle a fait son chemin, et aujourd'hui, je suis venu à votre concert et j'ai amené mon père. Et c'était son père qui était là. Et on ne s'était pas rendu compte, mais on les avait croisés sur un marché, en jouant dans la rue, à Die, dans la ville de Die. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est tellement... Ce que le Seigneur peut faire, ça nous dépasse. Quand on laisse le Seigneur conduire nos projets, c'est pas nous, c'est lui. C'est le Seigneur qui fait ces choses-là. S'il n'y avait pas ce fruit-là, mais il faut arrêter. Et passer notre temps, plutôt que d'arriver à la fin de sa vie, comme le roi Salomon peut le faire ici, et se retourner sur sa vie, faire une sorte de liste, un petit peu, des projets qu'on a eus, des choses dans lesquelles on a investi, et de se retourner, et d'avoir à léguer à ses enfants des regrets. Ça doit être terrible. Pour notre Dieu, c'est jamais trop tard. Et même si quand on se retourne sur sa vie, on s'aperçoit qu'il y a des regrets, et moi-même, j'ai des regrets, des choses que j'aurais pas fait de cette manière-là. Des regrets, oui, mais notre Seigneur est capable, dans sa grâce, dans sa bonté, de prendre ça et de le transformer en bien, si on a un cœur suffisamment ouvert pour le laisser agir, et si on a assez d'humilité pour aller voir les personnes, peut-être qu'on a offensées, et leur dire pardon. Ça fait partie des choses qui doivent être faites, pratiquées. Ça doit être terrible d'arriver à la fin de sa vie et de s'apercevoir que dans tout ce que l'on a mené, tout ça c'est vanité des vanités. Vous savez, vanité, c'est un mot qui veut dire futilité, vapeur, fumée. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose, ça monte et puis voilà, on n'en parle plus. C'est une trace qui ne reste pas. Le livre de l'Ecclésiaste, pour lui donner ou lui redonner peut-être, je ne sais pas, ses lettres de noblesse, c'est un livre qui est d'un concret qui fait presque peur, désarmant. Et le thème qui est abordé par l'Ecclésiaste, c'est un thème qui est plus que jamais d'actualité. Comment mener une vie pleine de sens? Comment faire en sorte qu'à la fin de notre vie, on puisse éviter d'avoir ce regret? Sans forcément avoir besoin de trouver une solution comme cet homme, Larry Walters, a essayé d'être remarqué parmi les inremarquables. Comment faire en sorte d'avoir mené une vie pleine de sens? Indirectement, il pointe aussi quelques réalités, des réalités qui nous échappent parfois. Notre salut est valable dès aujourd'hui. Souvent, ou parfois, on peut penser qu'on est sauvé pour l'éternité, mais oui, c'est vrai, hein. Mais notre éternité a débuté le jour de notre conversion. On n'est pas amené à mener une vie frustrée sur terre. On n'est pas amené à mener une vie timorée sur terre. On est sauvé. Bien entendu, les choses, elles seront rendues parfaites quand on sera auprès de notre Père Céleste. Parfaites. Et ce sera tellement bien, tellement beau. Mais on n'est pas, en étant sur terre, dans une position uniquement d'attente. On est dans une position où on est là aussi pour profiter pleinement de ce salut que Dieu nous a donné. Christ nous a libérés. Combien de fois on se prive de cette liberté ? Combien de fois on se prive de cette liberté en essayant de se restreindre? Évidemment, la parole de Dieu nous donne tellement d'enseignements qui nous demandent de mener une vie sage, une vie saine. Mais il y a moyen de s'éclater en menant une vie sage et une vie saine. Et c'est même comme ça qu'on y arrive. On est sauvé pour aujourd'hui, pas que pour demain. Salomon, et je termine avec ça, développe dans le texte quelques pistes qui sont des fausses pistes qu'il a utilisées pour essayer de donner un sens à sa vie. Et merci Seigneur de nous avoir laissé ce livre. Parce que ce sont des pistes sur lesquelles on peut se pencher et puis voir comment il les a menées, ce roi Salomon, et voir pourquoi est-ce qu'il est allé dans le mur. Première piste, c'est la connaissance. Au verset 13, il nous le dit, il a essayé d'enrichir sa connaissance, mais ça a mené à rien. Dans 1 Rois 5, versets 12 à 14, voici ce qu'il est dit à propos du roi Salomon, il a prononcé 3000 proverbes, et ses chants sont au nombre de 1005. Nous, on compose un album avec 14 titres. Ça nous prend des plombes. Et on réfléchit aux paroles encore et encore. Lui, 1005. Chapeau l'artiste. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Vous vous rendez compte ? C'était le champion des champions, question pour un champion. C'était... Vous posiez une question à Salomon, il avait la réponse. Il savait, vous lui parliez d'un arbre, il connaît son nom latin. Vous lui parlez d'un oiseau, il vous donne sa provenance. Vous parliez de Salomon, quoi. Vanité, des vanités. Deuxième fausse piste, le plaisir. C'est une idée qui reste encore aujourd'hui. La solution, c'est le plaisir. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme. Dans 1 Rois, chapitre 5, versets 2 et 3, et je vous encourage à relire aussi ce livre, ce chapitre de 1 Rois 5, qui nous décrit tout ce que Salomon a fait. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 têtes de petit bétail, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Pour vous donner une idée, en gros, dans le palais royal de Salomon, il y avait 200 kilos de farine par jour qui étaient consommés. Il y avait près de 20 tonnes de farine par jour. Il y avait 30 bœufs par jour, hein. D'accord ? Il a largement abusé du vin, très largement. On ne parle pas de modération ici, mais d'excès. Tout ça pour noyer un mal-être. Tout ça pour noyer cette sensation claire de « je suis en train de tout planter ». Le matérialisme, la consommation... Il avait du talent, Salomon. En 7 ans, vous parliez de rénovation ici, je ne sais pas combien de temps a pris la rénovation ici, mais lui, en 7 ans, il a construit une cité royale. Le temple en 7 ans et en 13 ans, la cité royale. Il y a 185 000 personnes qui ont travaillé sous ses ordres pendant 20 ans. Un palais somptueux, toute l'organisation du palais est décrite en 1 roi 5. Il a géré, piloté, ce n'est pas lui qui était forcément les mains dedans, on est d'accord, mais c'est lui qui coordonnait. C'était lui le chef d'orchestre. C'est pas un mal de construire. C'est pas un mal d'avoir une maison. C'est même bien. Mais quand on mise son bonheur dessus, quand on mise le succès de sa vie dessus, on est complètement, mais complètement à l'ouest. À côté des réalités. Parce qu'un jour, on laissera ces choses. Un jour, on partira, et ce sera beau. On rejoindra notre Dieu, notre Père, mon Père. C'est beau, le matérialisme. C'est beau quand il y a une finalité qui est le service du Maître. C'est beau. Ça ne sert absolument à rien si on veut miser sa vie là-dessus. Rien. Dernière fausse piste, la sensualité. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Certains font un humour un peu graveleux à ce sujet-là, j'apprécie moyennement, mais c'est quoi une relation? 300 femmes et 700 concubines. Moi, j'ai déjà du mal avec des petits projets, entre guillemets, que l'église, mon église locale, que j'aime profondément. Yatal, le centre des jeunes à Saint-Lunaire, ce sont mes trois axes de trois projets. J'ai déjà du mal à prendre du temps de qualité avec ma femme. Mais lui, 300 femmes et 700 concubines, c'était quoi, là, l'histoire? C'était pas une relation. Alors, on peut dire que c'est culturel, etc., mais Dieu n'a jamais voulu ça. Il n'a jamais cautionné ça. Jamais. Il a cherché son plaisir à travers ces choses-là. C'était un échec. Vanité des vanités. Tout est vanité. Trois conseils pour conclure. Il y a une éclaircie quand même dans ce livre. Il y a des éclaircies. Ne croyez pas que vous allez terminer en déprimant à la fin de ce livre. Mais il faut les voir, les éclaircies. Ce sont des petites éclaircies. Ce n'est pas quelque chose d'énorme. Mais dans l'Ecclésiaste au chapitre 2, le verset 24, il y a un petit bout de solution. Ça va peut-être vous surprendre. Peut-être même nous déranger. Mais au verset 24 du chapitre 2, Salomon dit « Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire, et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Mais j'ai vu que ça aussi, ça vient de la main de Dieu. » Prendre les moments simples de nos vies. Prendre notre quotidien. Quand on a des projets, c'est tellement passionnant, c'est tellement bon, mais on se projette et on se projette encore et on se projette encore au risque d'en oublier l'instant présent. C'est maintenant que ça compte. J'ai envie de dire, je profite avec mes yeux de l'instant qui m'est donné ici de pouvoir partager la parole de Dieu et de vous voir. Je veux ça. Je prie le Seigneur de ça, qu'il me donne une satisfaction à travers ça. Pas que je me projette en disant, tout à l'heure je vais rentrer et puis je vais poser la question de savoir comment c'est passé. Bien sûr, il y a ça en trame de fond, il y a ça. Mais profitez pleinement de l'instant qui nous est donné maintenant, quand nous sommes assis ici, quand nous partageons ce culte ensemble. Certains ont transformé ça en carpe diem. Fais ce que tu veux quand tu veux, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Carpe diem, tel que c'est énoncé comme ça, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de chrétien ou de biblique. Hein. Ce n'est pas « vis la vie à l'instant et puis profite » parce que de toute façon, après, on ne sait pas ce qui se passe. Un petit côté « aléa jacta est » là-dedans, qui n'est pas chrétien. Qui n'est pas chrétien. Mais « carpe diem », initialement, ça veut dire « cueille l'instant ». C'est ça, « carpe diem ». Cueillir l'instant. Maintenant, c'est un instant qui se respire. Peut-être demain, vous retournerez au travail. Ce sera un instant peut-être moins plaisant qu'être au culte, mais c'est un instant qui se respire aussi. Au lycée, je ne sais où, tous les instants sont des instants qui se respirent. L'altruisme, c'est le deuxième conseil que nous donne Salomon. Passer du « moi » à « toi ». Salomon, il a essayé de combler ses besoins. Moi, 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 et encore moi. Et puis, au final, il est arrivé à rien. Passer du moi au toi. Faire en sorte de donner. C'est notre Seigneur lui-même, et c'est relaté dans le livre des Actes, c'est une parole du Seigneur dans Actes 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qui mieux que notre Seigneur Jésus-Christ pouvait le vivre? Il y a plus de bonheur à donner et qu'à recevoir. Et c'est vrai. Moi qui suis père, qui ai ce privilège, quand je vois à Noël avec mes enfants qui ont 9 ans et 6 ans et demi, quand on leur offre un cadeau, les cadeaux que je reçois, je précise, mais j'ai tellement de bonheur à le voir mes enfants s'éclater quand ils ouvrent leurs cadeaux. Et je suis tellement triste de voir mes enfants parfois ouvrir leurs cadeaux en faisant comme ça. C'est-à-dire qu'ils ouvrent leurs cadeaux et ils regardent ce que la petite sœur à côté a eu. C'est-à-dire qu'en fait, ils profitent pas forcément de ça. Ils le vivent pas pleinement. C'est l'âge. On va pas leur en vouloir non plus. C'est la réflexion de la vie aussi. Bien sûr. C'est tellement bon de pouvoir dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et enfin, et je termine, Dieu fixe un nouveau jour. Et ce nouveau jour, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas un projet long terme, c'est pas on verra, on va faire un emprunt et puis on verra ce qu'on peut faire avec. Dieu fixe un nouveau jour et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez de réformer notre vie. Acceptez de dire ok, et si j'essayais de vivre l'instant présent, même si ce qu'on vit actuellement n'est pas forcément quelque chose de simple, parce qu'on vit des choses difficiles dans la vie, il ne faut pas se voiler. Mais dire, je veux, Seigneur, que cet instant présent, je veux en profiter pleinement avec toi, avec ton aide, avec ta grâce, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Un ami disait que ce n'est pas forcément l'objectif qui est super important, c'est le chemin qui nous amène à cet objectif. Et je crois qu'il y a quelque chose de vrai. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous montrent ça, même si nous, on connaît notre objectif. Et on peut avoir confiance dans notre Seigneur qui est notre objectif et qui nous mène vers un avenir merveilleux, comme le dit un chant, un avenir si merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous aide à profiter de ces instants et j'espère que nous aurons un peu d'envie de relire ce livre de l'Ecclésiaste qui nous enseigne tellement au sujet de nos projets, nos vies, et puis qu'est-ce qui compte dans nos vies. Que le Seigneur bénisse votre église locale ici, rue Sonnera, et les projets que vous tissez avec lui. Amen.
Merci Jean-Marc pour ces paroles encourageantes, et puis transmets aussi donc nos salutations à Casimir Perrier, et puis bon courage aussi pour la suite. Yatel, puis j'aimerais prier simplement pour terminer ce culte. Merci notre Dieu pour ces instants, merci pour cet encouragement en effet à considérer les choses simples de la vie et à savoir se satisfaire de ce que tu nous donnes jour après jour, à voir ta bonté dans tout ce que nous vivons et à être reconnaissant de ce que tu prends soin de nous. Bénis encore cet après-midi, cette semaine qui est devant nous et accompagne-nous chaque jour. Amen. Bon dimanche.